Amis de YouTube, bonjour. J'espère que vous allez bien ce début de semaine. On est lundi, on est dans la matinée Étienne, dans la revue de presse sur Twitch. Et vous avez le sommaire ici de cette revue de presse qui va durer 3 heures. Mais parfois, on vous met quelques infos en avant. Et on s'est dit avec les amis de Twitch qu'on allait vous parler de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est tombé hier soir dimanche. C'est l'un des premiers candidats officiels déclarés hors primaire, hors tout ça, sûr d'y aller s'il a les signatures, quoi qu'il arrive, à la présidentielle. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est sa quatrième candidature consécutive. C'est ce qu'on appelle un 4 à la suite. C'est pas une surprise. Par rapport à l'actualité récente, c'est une surprise par rapport aux propos passés de Jean-Luc Mélenchon qui avait dit, qui avait déclaré clairement il y a quelques temps, notamment après sa dernière présidentielle, que c'était la dernière, qu'il fallait laisser la place aux jeunes. Bah, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Alors, je vous ai mis deux articles pour en parler. D'abord, un article général qui vous donne les infos, dans l'opinion, journal L'Opinion, et vous voyez que Libération consacre sa une également à cette candidature, le candidat permanent. Et on lira l'édito de Hamda Mostafavi dans Libération. D'abord l'article de l'Opinion, donc c'était hier soir aux 20h de TF1, voici l'info. Le leader des Insoumis a officialisé sa quatrième candidature à la présidentielle, Mélenchon à nouveau candidat au second tour, dimanche 3 mai, une petite centaine de cadres de la France Insoumise, des députés, des eurodéputés et des maires, se sont réunis pour déterminer le nom de leur candidat à l'élection présidentielle, selon la méthode dite du consensus. On verra ça en détail, mais c'est pas les militants qui votent, c'est les cadres du parti, et c'est pas tellement un vote, si je comprends bien. Enfin, on va voir ça dans le détail, c'est consensus. On va voir ça dans le détail. Incroyable mais vrai, l'évidence s'est imposée avec une telle rapidité que Jean-Luc Mélenchon devrait officialiser sa candidature le soir même aux 20h TF1. Dans la journée, les cadres LFI ont dit « Bon, c'est Jean-Luc », et le soir, il dit « Eh ben, c'est moi ». Qu'il est curieux, écrit Antoine Oberdoff dans l'Opinion, de parler d'officialisation tant il n'a jamais été sérieusement question que Jean-Luc Mélenchon passe la main. Enfin si, il y a quelques années, mais plus maintenant. Bali Bagayoko l'a bien compris, frappé d'une popularité soudaine après les attaques racistes dont il a été la cible, le maire de Saint-Denis a su esquiver le baiser de la mort qui faisait de lui un successeur potentiel. Ah, c'est intéressant ça. Certains ont pensé que M. Bagayoko aurait pu être le candidat de LFI à la présidentielle. Ah, ça aurait été intéressant. Je créerai les conditions pour qu'en 2027, a-t-il pourtant déclaré le maire de Saint-Denis, pour qu'en 2027, Jean-Luc Mélenchon, qui sera notre candidat, puisse fédérer le plus largement possible. Avait-il juré début avril, mettant ainsi fin à un faux suspense qui n'avait que trop duré à LFI. Je savais pas que M. Bagayoko avait été considéré par certains chez LFI comme un éventuel candidat pour 2027. Les étoiles montantes de la Nouvelle France vont donc devoir attendre avant de mettre fin à l'ère du porte-parole, n'en déplaise à Rima Hassan. Et de 4 donc. C'est un 4 à la suite. À question pour un champion, on peut pas faire plus. Après, en politique, on peut faire beaucoup plus. On peut faire 5, 5 à la suite, 6 à la suite, 7 à la suite. Et de 4, Jean-Luc Mélenchon s'apprête à donner à 74 ans le coup d'envoi à sa quatrième candidature à la présidentielle. En amont du 20h de TF1, c'est toute l'armada insoumise qui s'est mise en mouvement au service de son leader naturel et incontesté. Dimanche matin, donc comment ça s'est passé cette histoire? Une petite centaine de fidèles insoumis, parlementaires nationaux et européens, et des maires se sont retrouvés autour de Jean-Luc Mélenchon pour entériner une décision qui, semble-t-il, aurait déjà été prise avant, quoi. La preuve, la rumeur d'une interview sur TF1 circulait depuis 48 heures, mais soucieux de soigner les apparences, les insoumis ont suivi leur procédure d'investiture dite populaire. D'abord, une validation de la candidature par un comité d'élus et de cadres, puis dans la foulée, une ratification par 150 000 citoyens, une investiture pour la forme. D'accord. Donc, normalement, il y a une ratification par 150 000 citoyens qui devraient suivre cette désignation. Enfin, a priori, c'est une formalité. Alors, c'est une procédure qui pourrait provoquer des débats, puisque, effectivement, ce ne sont pas les militants LFI qui décident, qui votent. Le vote n'a jamais été l'alpha et l'oméga de la démocratie, avait déclaré Manuel Bompard, tout juste promis au poste de coordinateur de LFI en décembre 2022. Et de fait, la consultation d'instances internes, que Jean-Luc Mélenchon assimile à des bavardages inutiles, nuit à l'efficacité d'une stratégie. Donc, consultation des instances internes, par exemple des militants, bon, a priori, d'après l'opinion, Jean-Luc Mélenchon en aurait parlé comme des bavardages inutiles. Plus de 30 ans passés dans la vieille maison lui ont appris, alors la vieille maison c'est le PS, pour ceux qui n'ont pas la ref, puisque Jean-Luc Mélenchon est un ancien socialiste, plus de 30 ans passés dans la vieille maison lui ont appris que les synthèses produisent de tout, sauf de la dynamique électorale. Ce proche d'Olivier Faure avait vu juste, en craignant de se retrouver une fois de plus comme des lapins pris dans les phares à devoir condamner les polémiques de Mélenchon, d'ici aux universités d'été du PS à Blois fin août prochain, rien ne devrait bouger sur le front de la social-démocratie partagée entre Raphaël Glucksmann et François Hollande. Quel sera le candidat socialiste, quel sera le candidat de social-démocratie, ça, on n'en a aucune idée à l'heure où nous parlons. C'est vrai que mardi, demain, rappelle le journal, il y aura un rassemblement, un meeting organisé par les partisans de la primaire à gauche, mais bon, c'est le truc a un peu de... un coup dans l'aile, et donc avec un processus miné par les contradictions de cette gauche qui se définit pour l'essentiel négativement comme une gauche non mélenchoniste, et c'est donc le moment qu'a choisi la tortue sagace pour passer la vitesse supérieure. Je ne savais pas que Jean-Luc Mélenchon était surnommé par certains tortue sagace. Je sais pas si vous le saviez. Pourquoi Tortue Sagace d'ailleurs? Côté sage un peu? Vieux sage? Je sais pas. Vous avez la rêve, vous? Tortue géniale, je connais. Tortue Sagace, je l'ai pas. Parce qu'il râle beaucoup? Ah, Sagace! Vous croyez qu'il y a un jeu de mots? La tortue comme le logo de LFI? Mais le surnom, non? Ok. Parce qu'il s'agace souvent, vous croyez? Parce qu'il monte lentement dans les intentions de vote? Ce 1er mai, en tout cas, a donné un avant-goût de ce que serait la campagne à venir, ça nous intéresse. Juché sur un camion à l'effigie de son mouvement, place de la République à Paris, Jean-Luc Mélenchon a pris un malin plaisir à narguer ceux qui, comme Olivier Faure au PS et au Marine Tondelier chez les écologistes, regrettent sa stratégie de conflictualité permanente. Alors pourquoi? C'est la question que je me pose ce matin. Ah, Defcator me dit c'est lui qui s'était ainsi auto-surnommé en 2022. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il changé d'avis? C'est la question qu'on se pose ce matin. Parce que là, évidemment, quand on dit Mélenchon candidat à une quatrième présidentielle, tout le monde me dit dans le chat, bah oui, quelle surprise. Sauf que il avait dit l'inverse. Il y a quelques années, il avait dit, mais moi, c'est ma dernière campagne, je n'irai plus. Donc il a changé d'avis. Pourquoi? Il fallait mal connaître l'ex-sénateur socialiste pour entendre dans le « Faites mieux !» lancé le 10 avril 2022 sur la scène du cirque d'hiver un adieu à la vie politique. Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon se pose en Cincinnatus, ce modèle de vertu qui sauva Rome par deux fois avant de retourner à une vie simple de paysan. Edgar 52 me dit « Il n'a jamais dit ça !» Mélenchon, il n'a jamais dit que ce serait sa dernière candidature. Ok. Deux points ouvrez les guillemets. Il est évident que c'est ma dernière candidature. C'est même un argument en ma faveur. Je suis le seul à ne pas organiser une carrière. Déclaration au Dauphiné libéré le 26 août 2021. Sacré Edgar. Hein? Merci pour les infos. Pour quelqu'un qui aspire à être remplacé, le tribun insoumis reste un retraité actif. Sa décision de ne pas se présenter aux législatives de 2022 l'a éloigné du palais Bourbon. Pas du circuit présidentiel à une époque. C'est vrai qu'après on s'est demandé, mais pourquoi il se présente pas aux législatives? C'est super bizarre. C'est hyper étrange. Ranger le blouson de cuir noir des mauvais jours, revoilà le costume d'instituteur républicain et la cravate rouge vive des grands rendez-vous. La métamorphose fera-t-elle illusion auprès des électeurs de gauche? L'expérience récente se demande l'opinion, qui est un journal qui n'est pas de gauche, hein, qui est un journal libéral très proche des entreprises. La métamorphose fera-t-elle illusion auprès des électeurs de gauche? L'expérience récente a appris aux commentateurs à ne jamais prononcer de paroles définitives pour Jean-Luc Mélenchon. En octobre 2021, un sondage IFOP le créditait de 7% à 8% des intentions de vote. Aujourd'hui, le même institut le situe entre 10 et 11% au coude à coude avec Raphaël Glucksmann. Donc si je compare avec 2021 où il était parti très bas, il était arrivé assez haut, hein, vous vous rappelez, pas très loin de pouvoir se qualifier pour le deuxième tour. Quoi, il y avait 400 000 voix, c'est pas par rapport à Marine Le Pen, c'est ça? Ben là, il part de bas également, mais plus haut que 2021. 7-8% en 2021, 10-11% aujourd'hui. Ce qui fait dire à l'eurodéputé Manon Ombry que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été aussi bien placé pour l'emporter. Si on regarde les sondages aujourd'hui, certaines enquêtes d'opinion, à l'instant T, le deuxième tour qui nous serait promis aujourd'hui, ce qui ne veut rien dire à un an de la présidentielle, ce qui est donc conditionnel, Mélenchon, RN, Le Pen ou Bardella, selon ce qui va se passer le 7 juillet avec la décision de justice concernant Marine Le Pen. Donc, Manon Ombry dit « Mélenchon n'a jamais été aussi bien placé pour l'emporter. Mieux vaut partir de 22% que de 1,7% quand on prétend réunir plus de 50% des voix. » Bon, sauf que c'est pas 22%, c'est 10-11%. Non, bon, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, l'opinion en parle après. En évacuant l'hypothèse d'un front anti-LFI qui précipiterait, au contraire, l'arrivée au pouvoir du RN. Les opposants à Mélenchon disent ça, disent « Mais c'est le meilleur candidat possible pour que le RN arrive au pouvoir. » C'est aussi ce que disent les sondages un petit peu. Les insoumis font parfois comme si tout s'était arrêté le 10 avril 2022, revenons sur ces 22%, comme si le compteur électoral était resté bloqué à 22% ce jour-là, 7,7 millions d'électeurs, effectivement, s'étaient saisis du bulletin de vote Mélenchon pour envoyer la gauche au second tour. Peu importe qu'ils aient voté Yannick Jadot aux européennes de 2019 ou Anne Hidalgo aux municipales de 2020, la logique du vote utile commandait de plébisciter l'insoumis. À 420 000 voix près, c'est ce que je disais, le leader insoumis doublait Marine Le Pen et gagnait le droit de jouer son va-tout face à Emmanuel Macron. Sauf qu'entre-temps, Jean-Luc Mélenchon a décroché un nouveau titre. Donc voilà, c'est intéressant. L'article de l'Opinion, encore une fois, c'est pas un journal de gauche, mais est intéressant parce que l'article de l'Opinion donne la parole à ceux qui, chez LFI, pensent que Mélenchon a toutes ses chances, qu'il n'y aura pas de front anti-LFI, qui part encore plus haut que la dernière fois et qui peut surprendre son monde. Et en même temps, l'Opinion nous dit autre chose. Mélenchon, entre-temps, depuis 2022, a décroché un nouveau titre, celui d'homme politique le plus détesté de France. C'est aussi un petit peu ce que disent les enquêtes. À force de clin d'œil antisémite et d'outrance verbale depuis l'attaque du 7 octobre. Ses rivaux à gauche se chargeront de rappeler qu'il est le pire candidat du second tour pour battre Marine Le Pen ou Joanne Bardella, qu'il est en passe de devenir le roi du cimetière, comme le répète par exemple la patronne des Verts, Marine Tondelier. Ce prêchi-prêcha antifasciste n'atteint pas le patriarche insoumis, écrit l'Opinion. Chaque fois qu'un nom s'ajoute à la liste des prétendants à l'Élysée, le septuagénaire voit le seuil de qualification au second tour s'abaisser et son espoir grandir. Lui préfère convoquer la magie du second tour, cet effet inexplicable du barrage républicain qui blanchirait n'importe quel monstre pourvu qu'il soit opposé à l'extrême droite. Et ainsi, les petites cervelles social-démocrates, a priori citation de Jean-Luc Mélenchon, passeraient outre la répulsion et parfois la peur que leur inspire Jean-Luc Mélenchon une dernière fois. Voilà pour l'analyse de l'Opinion, qui n'est qu'une analyse, qui est juste, qui n'est pas juste. Ça, vous faites votre avis comme vous voulez. Je vous lis et on enchaîne avec un édito dans Libé sur le même sujet. Pourquoi 11-12% de sondeurs qui ont toujours eu tort sur le score de Mélenchon seraient plus crédibles comme base de départ plutôt qu'un résultat concret de 22%? Le 11-12%, c'est un an avant la présidentielle. Bon, bozo bec. Le 22%, c'est le score du premier tour. On va pas comparer un sondage un an avant la présidentielle avec un score de premier tour. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un sondage 15 jours avant la présidentielle, par exemple. Donc, édito de Libé. Parti radical, écrit Hamdam Mostafavi. Un édito, c'est un article un peu particulier où le journaliste donne son avis. Qu'est-ce qu'il en pense? Jean-Luc Mélenchon n'est pas du genre à renoncer. C'est vrai. À la sortie de la dernière élection présidentielle, il appelait ses disciples à faire mieux pour se poser en alternative crédible. Mais finalement, bon, ils n'ont pas fait mieux, en tout cas estime Mélenchon, puisque l'alternative, c'est lui, l'homme providentiel. Ce n'est qu'au sommet qu'il rêve de clore le chemin politique qui l'a amené, il y a quelques années, moi je l'ai connu comme sénateur socialiste, notamment, qui l'a amené à s'extraire des rangs du PS pour créer son propre parti, affirmant toujours plus sa radicalité et son refus du consensus mou. Insoumis, il l'est, il le restera. Insoumis à 74 ans, au temps qui passe et à une certaine lassitude face à cette quatrième candidature. Insoumis aux voix divergentes dans son camp, qui a vu partir les proches les plus susceptibles de succéder au patriarche. Insoumis aux critiques, notamment celles sur les relents antisémites de certains de ses propos. Sa stratégie fonctionne, du moins en est-il convaincu. Les dernières élections municipales lui ont montré que les candidats LFI pouvaient l'emporter. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes au municipal pour certains candidats LFI, réaliser de très bons scores, en particulier dans les villes historiquement ancrées à gauche. Elles ont parfois, à l'inverse, montré qu'il faisait pour une partie de l'électorat de gauche figure d'épouvantail, et aussi des candidats au municipal de gauche qui n'ont pas voulu de l'union, vous savez, de la main tendue par d'autres candidats LFI. Jean-Luc Mélenchon sait que sa stratégie de radicalisation l'éloigne des électeurs centristes. Il poursuit néanmoins son pari, ramener aux urnes les électeurs désengagés, notamment dans les banlieues et les quartiers populaires, il persiste car rien ne semble à ses yeux l'empêcher dans la dernière ligne droite de se proposer en sauveur de la gauche, projetant que les électeurs pourraient se rallier à lui, attirés par la perspective d'un accès au second tour de la présidentielle. Le reste de la gauche, particulièrement fragmentée, sert son scénario. J'ouvre la parenthèse, Libé a raison. Au vu de l'état du reste de la gauche aujourd'hui, enfin tout pousse Mélenchon à se présenter, quoi. Vu le nombre de candidatures annoncées à gauche, vu l'incapacité de la gauche non mélenchoniste, pour l'appeler comme ça, éventuellement de s'unir autour d'un candidat, il a un boulevard pour Mélenchon être le candidat de la gauche le mieux placé au premier tour. Est-ce que ce sera suffisant pour se qualifier au second? Ça, c'est autre chose. Le reste de la gauche, particulièrement fragmentée, sert son scénario, je suis d'accord avec ça. Après 3 échecs, Mélenchon vise donc le Graal, atteindre le second tour et cette fois l'emporter. Jean-Luc Mélenchon, président de la République. Quitte aussi, est-ce que ces positions clivantes ne garantissent pas la formation d'un front républicain en sa faveur et contre l'extrême droite? Avant le second tour, il y a le premier. Dans la France de 2027, pas de 2026, de 2027, cette phrase elle est importante. Là, on analyse, bien sûr qu'on va parler beaucoup de la présidentielle pendant un an parce qu'on est un pays qui se passionne pour la politique et c'est tant mieux en vrai. Mais évidemment que l'état des forces aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'il sera dans un an. D'où cette phrase. Dans la France de 2027, sa stratégie de radicalité apparaîtra tel comme le bon pari. En politique, on fait des paris. Ce dernier chapitre-là reste à écrire. Il est intéressant cet édito d'Hamdam Mostafavi, qu'il reconnaît qu'il peut se passer encore plein de choses. Amis de YouTube, je ne vais pas lire vos messages parce qu'on est en direct sur Twitch, je vais lire ceux dans le chat sur Mélenchon pour augmenter un petit peu l'information qu'on vient d'évoquer avec d'autres infos, d'autres idées. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits likes sur cet article si vous l'avez aimé. Et on vous mettra un deuxième extrait, ami de YouTube également, concernant une info de fin de revue de presse là sur monsieur Charles Alloncle, le rapporteur de la commission de l'Assemblée sur le duel public, qui vient d'être visé par une nouvelle plainte. Alors, qu'est-ce que ça dit le chat? Jamais de la vie, il y aura un candidat unique à un an de l'élection présidentielle. Autant de candidatures à ce stade, c'est normal. Ah oui, foie jaune, je vois ce que tu veux dire. Après, si tu penses que la gauche social-démocrate non mélenchoniste va réussir à s'entendre autour d'un candidat unique, je trouve ça formidable. Moi, je trouve que c'est un pronostic un peu risqué quand même. Mais pourquoi pas? C'est pareil à droite, il ne semble pas y avoir de candidat unique, c'est très étrange comme point de vue pour la gauche finalement. Ah non, mais fusion, t'inquiète, on n'oublie pas la droite non plus. Hein. Alors, pour la droite LR et ce qu'on appelle le bloc central, macroniste droite, même constat, hein, mais sauf que là, aujourd'hui, on parle de la gauche. Mais si tu es un habitué de la revue de presse, que manifestement tu n'es pas, tu sais que la division à droite et du bloc central, on en a déjà parlé longuement, pas plus tard que samedi et pas plus tard que jeudi. Mais bon, tu ne devais pas être avec nous ce jour-là. Matma me dit, personnellement, ça me saoule de mettre les personnes autant en avis, je pense que tu veux dire en avant, plutôt que le parti et les programmes. Moi, j'attends les mesures. Pas de belles photos, interviews. Tu as bien raison, Matma. C'est l'un des soucis de notre système politique et de la présidentialisation, hein, et de la figure de l'homme ou de la femme providentielle dans notre imaginaire politique. Je suis 2000% d'accord avec toi. Alors, ce que j'aime dans ce chat, c'est la diversité. Nightwolf, pire candidat possible pour LFI. Et Sibiusity qui répond, meilleur candidat de la gauche. In my opinion, le problème de la gauche aujourd'hui, estime Absolute Jess, c'est que le candidat en position de force est le plus repoussant pour les gens d'autres bords et pour un second tour, c'est pas fou. Ne penses-tu qu'il devrait y avoir une limite d'âge? Combien de candidats auront presque 80 ans s'ils venaient à être élus à la fin de leur mandat? Non, tonton Charlet, personnellement, moi-même qui suis très âgé, non, je suis pas pour une limite d'âge. Il y a des jeunes gens qui veulent se présenter à la présidentielle, il y en a des très très jeunes même qui rêvent de pouvoir se présenter. Je pense à un très bien placé dans les sondages qui est très très jeune, et je ne crois pas que son âge garantisse la qualité du projet. Ou alors il faudrait aussi interdire les plus jeunes de se présenter, tu vois, si je puis me permettre. Je ne parle de personne en particulier, bien sûr. Hein.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
La jeunesse ne garantit rien. Amis de YouTube, en tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à venir aussi nous voir le matin sur Twitch en direct. C'est marrant aussi, comme ça on peut se parler et se bagarrer, j'adore, en direct. Mais merci de nous suivre également sur YouTube. Et je vous mettrai un deuxième extrait tout à l'heure à propos de Charles à l'oncle, deuxième extrait de la revue de presse. Amis Twitch, on enchaîne?